Dieu est présent ce matin. Je crois que Dieu est au milieu de nous. Et je prie qu'il y ait une onction particulière maintenant et que sa parole puisse être dite avec puissance, avec vérité, que nos oreilles puissent s'ouvrir, que nos yeux puissent s'ouvrir, que notre entendement, notre discernement puisse s'ouvrir et qu'il y ait une parole qui vienne percuter nos cœurs et qui vienne faire une œuvre de transformation. Fais-le, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, je voulais qu'on parle d'un sujet qui me tarabiscote depuis quelques semaines, voire quelques mois. Un sujet que j'ai creusé, que j'avais vraiment à cœur de vous livrer et qui est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on est en train de vivre en Église, de ce qu'on a vécu la semaine dernière, notamment à ce week-end d'hommes, mais aussi plus généralement de ce que l'Église est en train d'initier, l'Église du tabernacle. Et je crois profondément que le Seigneur veut nous parler ce matin. Il veut nous parler de son Église, parce que c'est son Église. C'est pas l'église d'Alain, c'est pas l'église de Philippe, c'est pas l'église d'une équipe de responsables ou d'un conseil, c'est l'église de Dieu. Et Dieu, je crois, veut qu'on revienne aux actes. Qu'il y ait un retour aux actes. Alors j'aime bien ce titre, c'est le titre de mon message. L'église selon Dieu, retour aux actes. Alors il y a deux sens, hein. Il y a les actes dans la Bible, les actes des apôtres, mais il y a aussi le fait de poser des actes, d'agir. Et c'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur et qu'on va partager ce matin. On est, dans une époque où on parle beaucoup de réinventer l'Église, de la moderniser, d'être plus en connexion avec la société, etc. Et on y réfléchit, et c'est très bien d'y réfléchir. Mais le Seigneur nous demande aussi de prendre le temps de savoir comment il a commencé. Comment il a commencé au tout début. Et le livre des actes, c'est justement ce carnet de bord des premiers pas de l'Église. Alors, ce n'était pas une Église parfaite. Hein. Parfois, on pense que c'était une Église parfaite. Elle était très, très loin d'être parfaite. Mais par contre, c'était une Église qui était pleine de vie. C'était une Église où la puissance du Seigneur se manifestait. C'était une Église qui était unie, qui était centré sur Jésus. C'est une église où le Saint-Esprit avait une action puissante. Et puis c'était une église qui était en mission, qui produisait des actes. Alors aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous appelle vraiment à revenir à ce modèle vivant. Et en église, on ne veut pas simplement vous faire des beaux programmes, vous faire des beaux événements, vous faire des belles prédications, des belles structures, une belle hiérarchie, des beaux pôles avec des gens à l'intérieur qui servent. C'est très bien, évidemment qu'il faut ça aussi. Mais c'est pas que. On veut la vie, on veut la puissance, on veut de l'impact. C'est ça le rôle de l'Église, fondamentalement. Et je pense que ce que le Saint-Esprit a fait au commencement, quand on réfléchit, on va entrer dans le détail de la parole de Dieu, dans les actes, je crois qu'il veut le faire encore aujourd'hui. Je crois vraiment que cette parole, Jésus, était le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une parole pour nous ce matin. Il y a un profond besoin aujourd'hui dans l'Église, je pense, c'est ce retour aux fondamentaux, ce retour à ce qui est essentiel, ce retour à la base. Et la question à se poser, la question qu'on se pose ce matin, et que je vous pose, et que je me pose évidemment, c'est à quoi devrait ressembler une église véritablement biblique. Et j'ai défini quatre points, et on va les décortiquer ensemble. C'est d'abord une église qui est centrée sur Jésus. Elle est centrée sur Jésus. On l'a chanté ce matin. Jésus doit être le centre. L'agneau immolé, c'est lui le centre, personne d'autre. Pas une structure, pas une dénomination, pas une vérité humaine, mais c'est Jésus le centre. C'est aussi une église qui est portée par le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, début des actes, hein, les actes, ça démarre avec la mort, la résurrection de Jésus et le lancement de l'Église. Et ce lancement, ben, il ne se fait pas par une belle prédication, même si elle est quand même très belle, celle de Pierre, mais elle se fait surtout par le mouvement du Saint-Esprit. C'est, troisième point, une Église qui est fondée sur la communion fraternelle, une vraie Église qui est unie, où les gens vivent ensemble, où ils partagent. Une famille en action. Ça vous parle? Et puis il y a un quatrième point qui n'est pas un point mineur, c'est une Église qui est en mission, c'est une Église qui est envoyée. Et c'est ces quatre points que je vous propose de. Dans lesquels je vous propose d'entrer tout de suite. Et on va parler donc d'une Église centrée sur Jésus-Christ. Jésus, c'est vraiment le cœur du message. Et le livre des Actes, eh bien, il commence là où les évangiles s'arrêtent. Donc je le disais, la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort, et ensuite la mission qui est confiée aux disciples. Et dans Actes 2, 36, donc c'est Pierre qui parle, il initie un prêche fabuleux, et il dit à un moment donné que toute la communauté d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est le centre du message. La première prédication de Pierre, elle est centrée à 100% sur Jésus. Il n'a pas parlé d'organisation, il n'a pas parlé de méthode, il n'a pas parlé de dénomination, il n'a pas parlé de structuration, il a juste proclamé « Jésus, il est crucifié, il est ressuscité et il est exalté ». C'est tout ce qu'il a dit. Donc Jésus, c'est vraiment ce cœur battant de l'Église au départ. Et d'ailleurs, Paul va le confirmer plus tard, le grand apôtre Paul, le grand érudit Paul, il va s'effacer devant ce message puissant de l'Évangile et de la croix. Il dira dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. » Aujourd'hui, on voit quand même dans nos milieux, c'est facile hein, de prêcher du bien-être, prêcher du leadership, prêcher du développement personnel, on le voit quand même beaucoup. Mais l'Évangile, c'est une personne, et c'est Jésus. Et le message biblique, c'est Jésus crucifié et ressuscité. Il est la pierre d'angle, il est le fondement unique. Dans Actes 4, au verset 11, il est dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » L'Église, elle n'est pas construite sur un homme ou sur une équipe de direction, des responsables. Ce n'est même pas une vision, ce n'est même pas une stratégie. Elle est bâtie sur le Christ vivant, celui qui ne change pas et celui qui est puissant. Et d'ailleurs, dans ce passage, quand il nous est parlé de salut, le mot salut ici, il vient du grec soteria. Et il signifie, c'est très intéressant, libération, préservation, sécurité. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde, quand on allume la 15, la 16 ou je ne sais quelle chaîne vous suivez, est-ce qu'on n'a pas besoin de sécurité? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être libéré de toutes ces nouvelles anxiogènes qui peuvent nous atteindre? Est-ce qu'on n'a pas besoin de préservation, d'être préservé? Oui, ce monde a besoin de conservation, il a besoin de sûreté, il a besoin de sécurité, il a donc besoin de salut, dans le sens qui nous est donné dans la parole. Et finalement, il n'est donné qu'en aucun autre que Jésus. Ma foi, elle repose sur Jésus, Jésus-Christ avant tout, pas sur des habitudes religieuses que peut-être sur lesquelles je suis peut-être encore attaché. Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cette pierre angulaire, c'est Jésus. Sans lui, tout s'écroule. tout s'écroule. Et c'est pas un style, c'est pas une créativité, c'est pas une organisation qui bâtit l'Église, c'est vraiment Jésus et lui seul. Et si on construit autre chose, avec une vision humaine, avec peut-être un super groupe de louanges, peut-être des super prédicateurs, comme on peut le voir, quelque chose de très professionnalisé, ben, je suis pas sûr que ça transforme, je suis pas sûr que ça tienne. Parce que l'Église des Actes, elle annonçait un Jésus ressuscité, pas juste des valeurs. Un Jésus ressuscité avant tout. Et donc l'Église primitive, dans les Actes, comme on la voyait, donc elle annonçait ce Jésus comme seul espoir du monde. Elle annonçait pas juste un Dieu en général, elle annonçait vraiment la puissance du nom de Jésus. A proclamé ce matin la puissance du nom de Jésus. Vous savez, on peut avoir des églises remplies, on peut même parfois faire un peu de complexe quand on voit des méga-églises, ou même des moins méga, hein, il y en a des moins méga. Mais combien viennent chercher réellement Jésus? Est-ce que parfois, on ne vient pas chercher plutôt une émotion? Est-ce qu'on ne vient pas chercher une petite étincelle comme ça qui parfois procure des frissons et des émotions? Est-ce que ces gens-là vont pas à l'Église pour ça? Est-ce que l'Église, au contraire, c'est pas quelque chose qui est? On va pas à l'Église, on est l'Église. Et c'est l'Église qui va. C'est ça le message. Nous sommes l'Église, nous n'allons pas à l'Église. Ça, c'est vraiment une révélation que j'ai reçue et que je voulais vous partager ce matin. On n'est pas des religieux, frères et sœurs. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et nous, on veut vraiment être une Église qui cherche le cœur battant de Jésus au milieu de nous. Et je crois que le cœur de Jésus, il bat très fort ce matin au milieu de nous. Jésus, c'est vraiment la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est lui le premier. Ce n'est pas le pasteur, la tête de l'Église. Ce n'est pas le conseil, c'est Jésus. C'est Jésus. On n'est pas en train de bâtir notre royaume, là. On est en train de bâtir son Église. Son Église. On est en train de faire avancer le royaume de Dieu. C'est vraiment ça, notre vocation. Et c'est à lui qu'on doit obéir. C'est lui qu'on doit regarder. Donc une Église biblique, ben c'est une Église qui est bâtie sur Jésus, qui l'écoute et qui lui obéit. L'obéissance, c'est un mot qui parfois écorche les oreilles. Hein. Un peu de mal parfois. Mais cette Église, oui, elle doit être une Église obéissante, qui vraiment recherche la volonté de Dieu, qui recherche sa volonté et qui s'incline et qui plie le genou devant Jésus. Donc cette Église, centrée sur Jésus, c'était mon premier point. C'est une Église qui prêche le Christ. C'est une Église qui cherche Christ. C'est une Église qui dépend de Christ. Et c'est une Église qui le reflète, qui reflète Christ. Et c'était ça la vocation des premiers disciples, finalement. Puisque j'arrive au deuxième point, c'était une Église qui était remplie du Saint-Esprit. Donc quand on revient aux premières pages du livre des Actes, on voit que Jésus, il n'envoie pas ses disciples tout de suite, en fait. Il ne les envoie pas tout de suite, il leur demande d'attendre. Et pourquoi il demande ça? Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux encore. Il n'était pas descendu sur eux. Et Jésus savait que sans l'Esprit, il n'avait rien. Rien. Il ne pouvait pas faire preuve de puissance. Dans Actes 1:8, Jésus parle, il dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parce que Jésus voulait faire prendre conscience à ses disciples, aux initiateurs de l'Église, que sans le Saint-Esprit, l'Église, elle est impuissante. Ça ne fonctionne pas. Et dans Actes 2, 4, il nous est dit, une fois que le Saint-Esprit était descendu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils n'ont pas été simplement touchés, ils n'ont pas été simplement visités. Il peut y avoir un attouchement, une inspiration temporaire. Non, ils ont été remplis. Remplis. Et le mot grec pour rempli, c'est le mot pléto, qui signifie rempli au point de déborder. En fait, ils débordaient. La vie de l'Église primitive, elle commence le jour de la Pentecôte, pas avec une stratégie, pas avec quelque chose d'organisé, non, mais une mise à part des 120 pendant plusieurs jours, et puis la prière et une effusion, le Saint-Esprit, l'invasion de la personne du Saint-Esprit dans leur vie. Il y a une puissance surnaturelle qui s'est dégagée là. Vous recevrez une puissance, leur a dit Jésus. Vos puissances, c'est dynamis, ça a donné dynamite, ça et une explosion. Ce n'est pas qu'une force intérieure, mais c'est une capacité divine pour témoigner, une capacité divine pour guérir, pour résister, pour percer. Ils étaient équipés par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises veulent sans doute fonctionner sans cette puissance. Mais sans le Saint-Esprit, nos activités, elles ne vont pas avoir de feu, elles ne vont pas avoir de vie. Donc le revêtement du Saint-Esprit, il est vraiment indispensable pour notre mission. Indispensable. Sans lui, on ne peut rien faire. Et Dieu nous le disait bien avant les actes. Par la bouche du prophète Zacharie, dans Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais par mon esprit. Et vous voyez, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit ? Il transforme. Il transforme les disciples. Vous voyez, ce Pierre qui avait renié Jésus quelques jours avant, tout craintif qu'il était, la puissance de son message dans Acte 2. La puissance de cette prédication. La puissance. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Fais de cette église une chambre haute, Seigneur. Fais de cette église une chambre de réveil, une salle de réveil, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin que tu viennes poser des langues de feu sur chacun de nous. Nous voulons vraiment être embrasés, Seigneur, embrasés par ton esprit, pour pouvoir témoigner avec cette puissance, avec cette foi, sans crainte. Oui, l'esprit, il donne cette puissance, mais il conduit aussi. Il y a une direction divine qui est donnée par l'esprit. L'esprit, dans les actes, on le voit, hein, il parle, il envoie, il conduit. C'est lui qui envoie Paul et Barnabas, c'est lui qui va leur parler, qui va les freiner, qui va les pousser à un moment donné. Il dit que l'esprit les empêche d'aller prêcher en Asie. Il dit, le Saint-Esprit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit, il donne vraiment cette direction. C'est celui qui dirige, c'est celui qui, par révélation, viens nous dire où il faut aller. Et c'est ce qu'on doit prier. Seigneur, donne-nous un esprit de révélation. Donne-nous les clés. Donne-nous la direction. Où est-ce qu'on doit aller? Paul dira même dans Romains verset 8 et 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous voulons vraiment, en tant qu'Église du Tabernacle, être dignes de cet héritage. On veut être dignes de cet héritage de fils de Dieu. On veut avancer par obéissance. Pas parce qu'on doit faire des choses, pas parce qu'on doit activer des choses, mais parce que on veut que l'Esprit nous conduise dans tous ces projets qu'on va initier en Église, ensemble, comme un même corps. Un même corps. Ce n'est pas, encore une fois, les projets d'un pasteur, d'une équipe ou d'un conseil. C'est les projets d'une Église, c'est les projets du corps de Christ. C'est ça qu'on veut initier. Et que le Saint-Esprit va lier entre nous. C'est lui qui va nous relier et c'est lui qui va faire les choses. Soyons pas dans cette attente parfois où on voudrait réfléchir et devancer Jésus dans ce chemin. Non, lui nous précède. Lui, il a déjà préparé ses œuvres. Et c'est le Saint-Esprit qui nous relie pour qu'on entre ensemble là-dedans. Et enfin, l'Esprit, il transforme les cœurs. Vous voyez ce discours que Paul a transmis, Pierre, pardon, dans Actes. Ce discours était tellement puissant, il était tellement imprégné par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est venu transformer des cœurs. Rendez-vous compte, il y a une autorité nouvelle qui est portée par l'Esprit. Pierre autrefois qui était craintif, je le disais, ce jour-là, par le Saint-Esprit, 3000 personnes sont venues au Seigneur. D'un coup, ils se convertissent comme ça. L'Église, elle naît vraiment dans la puissance. Elle naît dans la puissance et elle naît dans la vérité parce qu'il prêchait Christ crucifié et Christ ressuscité. Cette vérité de la parole. Acte 2, 37 dit, ayant entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc là aussi. Il faut qu'on s'enlève parfois d'une pression inutile. Nos discours sont vains. Nos discours sont là pour convaincre personne. On est l'instrument, la bouche que Dieu utilise, mais c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre. Sans le Saint-Esprit, on aura peut-être du monde. Hein. Vous savez, vous avez des super prédicateurs, ou même des super, si on sort du domaine religieux ou ecclésial, des super hommes politiques qui ont une super rhétorique, qui remplissent des salles parce que les hommes aiment écouter des choses qui plaisent à leurs oreilles. On peut avoir du monde. Hein. On recrute un super prédicateur, et franchement, on va remplir l'Église. Hein. On aura peut-être du monde, mais est-ce qu'on aura une transformation? C'est ça la question. Est-ce que les cœurs seront transformés? Est-ce que le Saint-Esprit va agir pour que les cœurs soient transformés? On est appelé à cette vie transformée. L'Esprit ne donne pas que des dons. Il façonne des cœurs. Il façonne des cœurs. Il va produire la sainteté, il va produire l'humilité, il va produire le pardon, il va produire la douceur. On pourrait citer tous les fruits de l'Esprit de Galates. Mais je trouve qu'il n'y a pas de plus grand miracle, finalement. Oui, il peut y avoir des miracles produits par le surnaturel de Dieu, des guérisons divines, des choses spectaculaires, mais le plus grand miracle, ce n'est pas celui de la transformation de nos cœurs. Est-ce que ce n'est pas un cœur qui s'assouplit, qui pardonne, qui est doux, qui est compatissant? Et c'est ce qui amènera Paul à un moment donné à déclarer dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et je prie vraiment que le Seigneur vienne transformer nos cœurs ce matin. S'il y a encore des choses à transformer, qu'il vienne vraiment assouplir nos cœurs, qu'il puisse travailler avec nous, qu'il puisse nous utiliser efficacement. Avec ce cœur transformé. Donc une église centrée sur Christ, une église qui est portée par la puissance du Saint-Esprit, et puis une église qui est fraternelle, qui est unie, qui est solidaire. Quand on lit Acte 2, versets 42 à 47, que nous dit la parole ? Qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans ce passage, il y a un tableau de vie communautaire qui est quand même puissant. On retrouve tout là. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les repas partagés, la prière, l'unité, la générosité. Et ça menait quoi ? La faveur du peuple. Tout ce que les apôtres, tout ce que les disciples faisaient en tant qu'église primitive, ça amenait la faveur du peuple. Et donc les gens étaient sauvés parce qu'ils voyaient ce tableau. Et le Saint-Esprit venait les convaincre que l'Église, c'était l'extension de Jésus. Et ils venaient à Jésus de cette manière, parce que l'Église était fraternelle, unie et solidaire, qu'il y avait une communion réelle, parce qu'il y avait une solidarité qui était concrète. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, nous dit Acte 4, 34. Ils mettaient tout en commun, tout. L'Église, ce n'était pas simplement un événement du dimanche. La communion, koinonia, ce n'est pas juste être sympa, se serrer la louche, se faire des bisous après le culte ou avant. C'est beaucoup plus profond. Koinonia, c'est partage profond, c'est entraide, c'est engagement mutuel. On s'engage les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ils vivaient leur foi ensemble, tous les jours. Ils partageaient leur joie, ils partageaient leur peine, ils partageaient leur sujet de prière. Cette église biblique, elle ne peut pas être individualiste, non. Cette église biblique, c'est une famille. En action. Et je prie vraiment que notre église soit une famille. Pas juste un lieu de rendez-vous, mais une famille. Où l'amour, il est visible, où l'amour, il est concret, où l'amour, il est authentique. Où il y a une solidarité entre nous. C'est un amour qui attire. C'est ça. L'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'unité, l'amour vrai entre frères, entre sœurs, c'est vraiment le témoignage le plus puissant. C'est celui qui attire les gens du dehors vers nous. C'est pas autre chose. Les gens du dehors, ils doivent être attirés parce qu'on est cette église vivante, unie, solidaire, qui se porte de l'amour. Et on prie vraiment que, grâce à ça, les gens du dehors vers qui on veut aller, ils trouvent le chemin, ils trouvent la vérité, ils trouvent la vie, ils trouvent Jésus. Alors ça me permet de faire une belle transition, parce que la solidarité concrète, la communion réelle, tout ça, on l'a vécu entre frères, il n'y a pas très longtemps, ça fait juste une semaine. Alors, j'ai fait une proposition sur notre super groupe WhatsApp, où il y a des super photos. J'ai annoncé à mes frères que j'allais apporter la parole ce matin, mais que si certains voulaient se lever et témoigner en 2-3 minutes de ce que le Seigneur a fait pour eux pendant ce week-end, de ce qu'ils ont reçu, de comment le Seigneur a vraiment agi dans leur cœur, dans ce cœur à cœur qu'on avait avec le Seigneur, dans ce cœur à cœur qu'on avait entre nous aussi. Et ben, la parole est à vous, mes chers frères. Juste vous dire que Patrick Rampon, qui était avec nous aussi ce week-end dernier, m'a fait passer un message. Il vous salue. Il a hâte que ça recommence, parce qu'il y avait une vraie amitié qui s'est dégagée de ce week-end, un vrai cœur à cœur entre nous. Richard, je te vois t'avancer, tu veux peut-être...